Alors, on va parler de la passion. Dans cette louange ce matin que Bernard a conduite, eh bien, nous avons senti la passion pour le Seigneur. Et voyez, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à rester passionnés pour le Seigneur. Et ce dont je veux vous parler ce matin, avoir de la passion. Le mot passion peut être aussi traduit par adoration, par feu, par flamme, hein. Et donc, on est toujours passionné pour quelque chose, hein. Donc, vous voyez, on peut voir l'image, on peut prendre l'image d'un feu. Lorsqu'on entretient un feu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on met du bois dans le feu, hein. Et il brûle encore plus. Et il réchauffe, il éclaire. Parce qu'on met du bois dedans, hein. Mais lorsque le feu n'est pas entretenu, lorsqu'on ne met rien dans le bois, dans le feu, lorsqu'on ne met pas de bois, lorsqu'on n'apporte rien dans le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint. Et les passions, la passion dont je veux vous parler ce matin, c'est la même chose. Elle peut s'éteindre. Elle peut s'éteindre. Mais le Seigneur ne veut pas qu'elle s'éteigne. Et nous devons entretenir la passion que nous avons pour le Seigneur. Parce que vous voyez, à partir du moment où nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus des gens passionnés. Nous ne sommes pas devenus des gens... moyens, on peut dire, qui vivent d'une certaine façon sans passion. Non, on est devenu passionné pour le Seigneur. On a vu des miracles. On a vu des choses se manifester dans notre vie et dans la vie d'autres personnes. On a vu Dieu à l'œuvre. Donc la passion a commencé à brûler dans notre vie. Comment est-ce qu'on l'a entretenue, cette passion? On l'a entretenue en venant à l'église, premièrement. On l'a entretenue par la prière. On l'a entretenue par l'étude et la connaissance de la parole de Dieu. Et la passion que nous avons pour le Seigneur a grandi. Alléluia. Combien d'années nous appartenons à Jésus, mon mari et moi? Des années. Mes frères et sœurs, notre passion est intacte. Nous aimons le Seigneur comme au premier jour. Nous n'oublions pas le premier jour. Nous n'oublions pas le jour où le Seigneur nous a visités. Alléluia. Et nous n'oublions pas notre premier amour. Notre premier amour, c'est le jour où nous rencontrons Jésus pour la première fois. Il y a de la joie qui vient, l'amour dans notre cœur. Nous avons une révélation, une connaissance de Dieu. Nous sommes tout surpris, tout étonnés de cette paix, de cette joie qui est dans nos cœurs. Eh bien, la parole de Dieu nous parle et nous explique comment entretenir la passion pour le Seigneur. Alléluia. Et je vais vous dire, on ne peut pas vivre une vie heureuse sans passion. Eh oui. Il y a des bonnes passions, il y a de mauvaises passions. Il y a des passions dangereuses, vous devez le savoir, destructrices. Il y a des passions qui détruisent la vie et qui amènent les gens même dans la mort. C'est pourquoi nous devons faire des choix dans notre vie. Et il y a quelque chose dont la parole nous parle qui est très important. C'est le fait d'être maître de soi et de diriger nous-mêmes notre passion dans la bonne direction. Parce que la passion est nécessaire. Nous ne pouvons pas vivre sans passion, mais quand nous avons la passion pour le Seigneur, la passion pour Dieu, eh bien nous devons la diriger et l'entretenir. Parce que cette passion, je vous dis, si elle n'est pas entretenue, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle va s'éteindre. Beaucoup de chrétiens ont commencé dans le feu et ont fini... on ne sait pas comment, parce qu'ils n'ont pas su entretenir la passion de Dieu dans leur vie. Vous savez, l'apôtre Paul était un homme passionné. Il a vécu sa vie avec passion, parce qu'il a vu Dieu agir. Moi, j'ai de la passion pour Dieu parce que je l'ai vu agir dans ma vie. Je l'ai vu agir dans la vie d'autres personnes. Je sais que Dieu est vivant. Donc, j'entretiens cette passion pour le Seigneur. Et la parole de Dieu nous parle d'entretenir cette passion. Et vous voyez, lorsqu'on parle de passion, il y a définition de la passion qui nous parle par contre d'être véhément. Vous savez, la passion nous parle à parler avec passion. Hein? Quand on a de la passion, on n'est pas timide, on n'est pas réservé, on est passionné. Est-ce que vous voulez parler, par exemple, à Michael Jordan, hein? Le grand champion de baseball, je crois, hein? Basketball, pardon. Vous l'écoutez parler? De quoi parle-t-il cet homme? De sa passion. Quelle est sa passion? Le basketball? Le basketball. Ok. Lorsque vous entendez parler des acteurs, des musiciens, des gens qui pratiquent quoi que ce soit, de, que ce soit leur travail ou que ce soit des arts ou de la musique, ils sont passionnés, ils parlent de quoi ? De leur passion. Et ce sont les gens qui en parlent le mieux. Les gens passionnés savent parler de ce qu'ils aiment. Pourquoi ? Parce qu'ils sont passionnés et ils sont véhéments. Ça veut dire, ils savent parler de ce qu'ils aiment. Nous, chrétiens, nous aimons le Seigneur. Est-ce que nous avons de la véhémence ? Parce que la passion donne de la véhémence. Ça veut dire, quand vous parlez à votre voisin, que votre voisin est malade et qu'il est déprimé, vous n'allez pas vous taire. Vous allez lui dire qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider. Vous allez imposer les mains à cette personne afin qu'elle reçoive une guérison. Vous allez être véhément. Vous allez lui parler de l'amour de Dieu pour elle. Vous allez parler. Parce que la passion donne de la véhémence. La passion également apporte de l'enthousiasme dans notre vie. Je suis enthousiaste. Je suis enthousiasmé par ce que Dieu fait. Je suis enthousiasmé par ces 3 semaines de jeûne et de prière. Parce que j'ai vu des personnes devenir plus fidèles, s'attacher à la prière, venir fidèlement pendant ces 3 jours où nous avons été dans l'église et dans la prière. J'ai vu des changements. Alors je suis de plus en plus passionné par les âmes, par l'œuvre que Dieu fait dans leur vie. J'ai de l'enthousiasme. Alors l'enthousiasme, c'est lié à la joie. L'enthousiasme, quand vous êtes enthousiaste, enthousiasmé pour quelque chose, vous êtes passionné, vous êtes joyeux. Vous n'êtes pas triste. Alléluia. Alors, dans la passion, il y a la véhémence, il y a l'enthousiasme, il y a le zèle. Soyons zélés. C'est important, le zèle. Hein? Le zèle, c'est faire ce qu'on a à faire avec beaucoup de force et de conviction. Lorsqu'on a des convictions, on est zélé. Et l'Église a besoin d'être zélé. Zélé pour les bonnes choses. Zélé pour aimer. Zélé pour faire et vivre selon Dieu. Zélé pour apporter la bonne nouvelle. Zélé. Alléluia. Soyons zélés et également ayons de la ferveur. Dans la passion, il y a de la ferveur. Lorsque nous prions avec ferveur, nous parlons à Dieu avec ferveur, nous prions pour vous avec ferveur, nous prions pour le monde qui souffre avec ferveur de tout notre cœur. Vous savez, on ne prie pas avec timidité. On sait comment prier. On a de la ferveur. Pourquoi ? Parce qu'on a de la passion. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs ? On a de la passion. Alors, je suis toujours en train de vous donner des définitions de la passion. Également, la passion, dans le sens du mot passion, il y a feu. La passion produit un feu à l'intérieur de vous. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, je ne peux pas ne pas prêcher l'évangile. C'est comme un feu en moi. Je dois le faire. Parce que ça brûle dans son cœur. Alléluia. L'évangile est tellement merveilleux que même les anges désirent plonger leur regard. Et ils regardent tous ceux qui sont sauvés, émerveillés de l'œuvre que le Seigneur a fait. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit que nous étions dans les ténèbres. Et par notre foi en Christ, Dieu nous a projetés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la vie éternelle. Le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Donc voyez, la passion produit la véhémence, l'enthousiasme, le zèle, la ferveur, un feu et des désirs. Nous avons des désirs. Vous savez que les gens déprimés n'ont pas de désirs. Mais nous avons, les chrétiens, des désirs. On a vu pendant ces 3 semaines dans la prière exprimer tous les désirs que nous avons pour l'Église, tous les désirs pour les familles, le bien-être, la bénédiction dans les familles, tous les désirs pour ce pays dans lequel Dieu nous a semés. Alléluia. Tous ces désirs sont dans notre cœur. Alléluia. Ce sont de bons désirs parce qu'ils sont produits par le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, la passion, c'est quelque chose d'important. C'est une force qui est cachée dans la vie de ceux qui ont des passions, qui ont une passion. C'est une force, la passion. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas être timorés, nous ne pouvons pas être à moitié pour le Seigneur. Il nous faut être entièrement pour le Seigneur. Alléluia. Quelle est cette force mystérieuse qui pousse les gens à faire des choses extraordinaires ? Quelle est cette force mystérieuse qui pousse les gens à se dépasser ? Quelle est cette force qui a poussé les premiers apôtres, les premiers disciples à aller jusqu'aux extrémités de la terre ? Si bien qu'on les retrouve partout, à l'est, au nord, au sud de cette planète, on les retrouve partout. Je suis allée en Inde, eh bien on m'a parlé de Thomas qui était allé en Inde et qui s'est fait lapider là-bas. J'étais tellement étonnée à Madras, qui ne s'appelle plus Madras maintenant, qui s'appelle, bref, Chennai. Merci. Alléluia. Donc vous voyez, quelle est cette force ? Eh bien c'est la force de la passion. Alléluia. Qu'elle soit dans notre vie. Alléluia. Regardez dans Romains chapitre 1. Alléluia. L'évangile donne cette passion dans nos cœurs. Et vous voyez, frères amis, si vous ne l'avez pas ce matin, je prie que le feu brûle en vous. que la passion pour le Seigneur brûle en vous. Vous savez, Michael Jordan est chrétien. Il a été évangélisé par un petit gars qui était passionné par Christ. Et il connaît Christ. Alors, je ne sais pas maintenant, parce que j'ai lu sa vie il y a déjà quelques années, mais il a fait une rencontre avec le Seigneur. Vous voyez tous ces athlètes qui témoignent de Jésus-Christ lorsqu'ils vont sur le terrain de football, lorsqu'ils vont sur certains terrains. Ils proclament qu'ils appartiennent à Christ et ça fait du bien aux autres. Ça fait du bien aux gens de dire que les chrétiens témoignent. Ils témoignent quelquefois, vous savez, ces équipes de football qui témoignaient de Jésus en priant au milieu d'un stade ou en faisant vraiment une démonstration de leur foi. Parce que la passion, elle se montre, elle ne peut pas être cachée. Jésus a dit, ce que je vous dis, ne le cachez pas dans les maisons, mais chantez-le, criez-le sur les toits. Car rien de ce que je dis ne peut rester caché. Tout ce que Jésus a fait, eh bien, il veut que ce soit communiqué. Il veut que ce soit donné, il veut que ce soit exposé. Alléluia. Amen. Regardez dans Romains, l'évangile donne une passion. L'apôtre Paul était passionné, les premiers disciples étaient passionnés. Et j'ai la passion de Christ, et il y a dans cette église des gens qui sont passionnés par Christ. Alléluia. Et les chrétiens ont besoin d'entretenir ce feu. Tout à l'heure, nous allons voir comment l'entretenir. Mais premièrement, regardez, Romains chapitre 1, versets 11 à 17. L'apôtre Paul a rêvé de souvent aller voir Rome. Il voulait voir l'église de Rome. C'est pas lui qui l'a fondée. C'est un de ses disciples. Vous savez, ses disciples qui étaient à Jérusalem, ils sont allés, ils sont partis selon l'ordre de Jésus. Ils ont évangélisé toute la région. Ils sont allés à Rome. Et l'église de Rome est née ainsi. Elle est devenue forte et puissante. Et l'apôtre Paul rêve d'aller à Rome. Il voudrait parler aux Romains, les chrétiens, donc à l'église de Rome. Il voudrait leur parler. C'est la première église, vous voyez, qui est née. C'est les premiers siècles de l'évangile. Et il dit, car je désire, verset 11, vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Et vous voyez combien l'église a besoin d'être équipée par le Saint-Esprit avec les dons spirituels. Ce ne sont pas des dons naturels, ce sont des dons surnaturels. Et il veut les équiper parce qu'il est apôtre. Et les apôtres, ils ont la capacité de libérer une onction puissante avec les dons spirituels. Et il veut leur communiquer quelques dons spirituels afin d'être affermis. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir, j'ai une passion. Vous pouvez le traduire ainsi. Hein? Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Ça veut dire, j'ai eu la passion pour l'évangile. Aussi, je voudrais vous donner cette passion également. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de l'évangile. Pourquoi ? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Oh, l'évangile, c'est une puissance. L'évangile dans votre bouche, l'évangile dans votre vie, c'est une puissance. Et ce n'est pas une puissance humaine. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque, c'est quiconque. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que nous soyons jaunes, noirs ou blancs, ça n'a pas d'importance. Le Seigneur a créé toutes les couleurs et toutes les races et elles sont égales devant lui. Alléluia. Dieu aime les couleurs et la multitude. Amen. Mais il dit, quiconque croit, eh bien, sera sauvé. Alléluia. Le salut est pour tout le monde. Et nous sommes dans le temps de la grâce, c'est le temps du salut. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, n'oublions pas que les premiers chrétiens étaient des juifs, donc, et ensuite du grec, c'est-à-dire des nations. L'évangile est allé vers les nations, alléluia, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est ça la beauté de l'évangile, c'est pas par les œuvres. Vous voyez, les gens essaient de s'améliorer, et souvent, ils retombent parce qu'ils n'arrivent pas à être vraiment ce qu'ils voudraient. Mais avec le Seigneur, c'est lui qui agit en nous. Il change nos cœurs. Il nous donne un cœur de chair. Il enlève le cœur de pierre. Il enlève ce qui ne va pas. Et il nous donne ce cœur de chair afin que nous soyons capables de suivre ses voies. Alléluia. N'est-ce pas une belle déclaration? On voit dans ce passage la passion de Paul pour l'évangile. Parce que Paul était un passionné. Et autour de lui, tous ceux qui sont venus autour de lui étaient des passionnés. Timothée était un jeune garçon. Il vivait entre sa mère, sa grand-mère, son père. Et il était vraiment dans un cocon de famille. Il était chrétien, sa mère était chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul l'a rencontré. Et la passion pour l'évangile l'a changé. Et il est devenu un pasteur. Il est allé faire le pasteur à Éphèse. Il est devenu pasteur de la grande église d'Éphèse. Donc c'est pourquoi la passion, lorsqu'elle rencontre votre vie, elle change votre vie. Tite, c'était également un grec, un jeune garçon qui a épousé l'évangile et qui a été aussi pasteur avec toutes sortes de puissance et de gloire dans sa vie. Parce que l'évangile, c'est une passion dans la vie. Ça brûle. C'est pas quelque chose qui vient à moitié. Vous savez que l'absence de passion vous conduira à être isolé et vous conduira dans un monde de fantaisie. Qu'est-ce que ça veut dire? D'imagination malsaine. Où vous rêvez des choses, mais vous n'accomplissez jamais rien. Ça, c'est le manque de passion. Parce que la passion, quand elle brûle en vous, elle vous rend actif. Elle vous donne de l'action. Vous agissez. Par passion, vous n'êtes pas immobilisé, en train de rêver votre vie. Vous agissez, vous êtes acteur de votre vie. Amen. La passion est nécessaire dans la vie chrétienne. Et il faut nettoyer tout ce qui n'est pas en ordre dans notre vie pour brûler pour Dieu, pour brûler les passions, la passion que nous avons pour le Seigneur. Nous allons voir comment, bien sûr. Alléluia. Vous voyez, David, nous en parlerons tout à l'heure, c'était un homme de passion. C'était un petit garçon que son père avait mis de côté parce qu'il avait des grands frères, il avait beaucoup de frères avant lui et il s'occupait des brebis de son père. Mais vous voyez, tandis qu'il s'occupait des brebis et qu'il était isolé comme ça, sa passion pour Dieu était activée. Il était en action. Et il expérimentait de grandes choses. Il expérimentait de l'autorité, de la puissance. Et lorsque le lion venait pour dévorer ses brebis, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il combattait le lion avec la force de Dieu. Est-ce qu'un petit jeune homme de 14-15 ans est capable de tuer un lion? Non. Mais lui, il disait, Seigneur, avec ta force, et il prenait la tête du lion, hop, et il le tuait. L'ours qui venait, le grand ours, il venait pour manger ses brebis. Seigneur, ta force, bon. Et il tuait l'ours qui le dépassait de plusieurs tailles. Comment est-ce qu'un petit garçon, un jeune garçon pouvait faire ça? C'est pas des histoires, c'est réel. Il l'a fait parce qu'il avait la force de Dieu en lui. Parce qu'il avait la passion pour Dieu. Amen. La passion pour Dieu vous donne des forces surnaturelles au moment où vous en avez besoin. Alléluia. Donc David, vous voyez, il a été passionné. Il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Il a eu une passion pour une femme qui n'était pas la sienne. Ça a été terrible. Il a amené la destruction dans sa famille. Mais Dieu, vous voyez, a quand même eu les yeux sur lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est tellement repenti. Il avait un cœur selon Dieu. Et lorsqu'il a fait cela, eh bien, ensuite, il a appris à diriger ses passions. Vous voyez, son fils Salomon, qui est monté sur le trône après lui, a écrit dans les Proverbes, il a écrit « Comme une ville forcée, sans muraille, ainsi est un homme qui n'est pas maître de lui. » Vous me suivez là, frères et sœurs? Comme une ville sans muraille, une ville forcée, ainsi est quelqu'un, un homme, une femme, qui n'est pas maître de lui. Vous voyez, la passion est nécessaire, mais nous devons la maîtriser. Nous ne devons pas nous laisser déborder par les passions. Nous devons choisir quelle passion nous allons avoir dans notre vie. Et Dieu nous appelle à avoir la passion pour l'évangile, la passion pour Dieu, la passion pour les âmes, la passion pour les choses de Dieu. Amen. Et ainsi, nous écartons le reste. Et ainsi, nous sommes efficaces. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 5 ce que le Seigneur a dit en ce qui concerne la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne ne se vit pas sans passion, elle se vit avec passion, chaque jour, alléluia, chaque jour, elle se vit avec passion. Regardez ce que Jésus a dit dans le verset 6 de Matthieu 5. Il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. » Vous voyez, cette parole est puissante. C'est Jésus lui-même qui l'a dit sur le mont des Béatitudes. Il a dit « Ceux qui ont faim ». Aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de gens ont faim. Il y a des petits-enfants qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui meurent par milliers et qui ont faim, qui meurent de faim. Nous sommes dans un monde totalement déséquilibré, où le trop-plein de nos sociétés ne vont même pas pour aider ceux qui ont faim. C'est terrible quand on y pense, à tout ce gâchis dans lequel on est, alors qu'il y a des gens de l'autre côté de la planète qui n'ont rien. Il y a des enfants qui meurent de faim, qui sont sous-alimentés. Donc nous, peut-être qu'on n'a jamais expérimenté la faim. Mais vous voyez, si un jour vous avez eu faim, vous savez ce que c'est que d'avoir envie de manger, de rien avoir pour manger. Ça doit être terrible. Hein, ne pas pouvoir manger quand on a faim. Eh bien, Jésus dit, celui qui a faim et celui qui a soif, ce sont des positions extrêmes. Regardez un désert, quelqu'un traverse un désert et a soif, et il n'y a pas d'eau. Vous voyez comment ça se passe, il commence à voir des mirages. Il voit de l'eau partout, il voit des villes, mais ce sont que des mirages provoqués par sa soif. Eh bien, Jésus dit, si vous aimez Dieu à ce point-là, que vous ayez faim de lui et soif de lui, vous serez rassasiés. Ça veut dire ne soyez pas timorés. Vous ne pouvez pas aimer Dieu à moitié. Aimez-le de tout votre cœur. Si vous avez faim et soif de lui. Vous savez, je connais l'histoire d'un pasteur qui baptisait des jeunes. Et il y en avait un qui avait certains problèmes et il le baptisait dans une piscine. Et quand ce jeune est arrivé, il l'a baptisé, donc il l'a plongé sous l'eau et il l'a laissé sous l'eau. Alors le gars, il l'a laissé quelques minutes, quelques secondes, hein, pas très. Mais le gars, il le maintenait sous l'eau. Et d'un seul coup, il a enlevé sa main et l'autre, il a fait. Alors le pasteur lui dit, qu'est-ce que c'est que tu voulais le plus quand je te maintenais sous l'eau? L'air. Eh bien, c'est ça la foi en Dieu. Il lui a dit, quand tu voudras le Seigneur au même point où tu veux l'air, alors tu auras vraiment Dieu dans ta vie. Vous voyez? Ça, c'est la passion. C'est extrême. Hein, je ne ferai pas une chose comme ça. Mais ce jeune homme-là, il a compris qu'il ne pouvait pas vivre sa vie à moitié. Il a compris que Dieu nous est nécessaire. Quand on l'a goûté, on ne peut pas s'en passer. Alléluia. Parce que Dieu, alléluia, vit dans nos cœurs avec passion. Regardez Colossiens chapitre 3. Lorsqu'on a faim et soif de Dieu, Jésus dit, vous serez rassasiés. Votre faim, eh bien, je vous donnerai à manger. Je vous donnerai la nourriture dont vous avez besoin. Votre soif, eh bien, vous aurez de l'eau fraîche et vous serez rassasiés. Voilà la façon d'entretenir notre passion. Regardez Colossiens chapitre 3. L'épître aux Colossiens chapitre 3. Voilà comment entretenir la passion pour le Seigneur. Parce que si on a une passion, et si l'on sait que la passion c'est comme un feu qui peut s'éteindre, alors Seigneur, comment entretenir ma passion? Comment? Regardez Colossiens. Alors, chapitre 3. Alléluia. Le verset 1. Donc, alléluia, vous l'avez, si vous êtes ressuscité avec Christ, alors quand vous êtes chrétien, par la foi, vous êtes ressuscité avec Christ. La vie de résurrection est en vous. La résurrection a déjà pris place en vous. Amen. C'est par la foi. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ah ah. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Waouh. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts spirituellement, vous êtes morts en Christ, alléluia, et votre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est ces deux versets, alléluia, cherchez les choses d'en haut. Ça, c'est un mot important, le mot chercher, ça veut dire rechercher. Ça veut dire, Libérez votre pensée en vous attachant aux choses d'en haut. Qu'est-ce que sont les choses d'en haut? Qu'est-ce que ça représente, les choses d'en haut? Alléluia. Eh bien, les choses d'en haut représentent, alléluia, votre vie avec Dieu. Ça veut dire, cela représente quoi? La parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, l'amour pour la parole de Dieu, le fait de lire quotidiennement la parole et de recevoir la pensée de Dieu au travers de la parole. Cela représente la prière régulière, prier Dieu régulièrement, plusieurs fois par jour. Soyez en pensée avec Dieu. Cela représente la vie de l'Église. Les choses d'en haut se vivent dans l'Église, au travers de l'Église. La fidélité à votre Église, alléluia. Le fait que vous participez à la vie de votre Église vous fait donner du feu dans votre vie et entretient la passion pour Dieu. Amen. C'est ensemble que nous entretenons notre passion pour Dieu. C'est ensemble que le Saint-Esprit nous renouvelle. C'est ensemble que le Saint-Esprit nous guérit, nous libère, nous transforme. Alléluia. Amen. Alors voyez, le fait de chercher, cela signifie désirer ardemment. Hein, désirer ardemment. Être passionné pour quelque chose. Et ça veut dire exercer également votre pensée. Voyez, quand vous cherchez, ça se passe au niveau de votre pensée. Vous mobilisez votre pensée sur quelque chose. Hein? Imaginez que vous ayez perdu votre petit garçon qui court dans le grand magasin. Je vais vous dire, vous allez le chercher avec passion. Hein? Hein? Moi, ça m'arrivait souvent. Hein? Parce que j'avais un petit garçon, il voulait jamais tenir ma main. Hein? Il voulait toujours partir. Alors, j'arrivais dans un grand magasin et hop, il partait. Alors, je lui courais derrière et il m'est arrivé de faire fermer le magasin pour dire que personne ne sorte, je sais plus où est mon petit garçon. Il a parti, j'ai pas eu le temps de le voir. Et donc, je le cherchais avec passion. Hein? Et je le trouvais, attention. Et donc, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais quand vous cherchez quelque chose, vous y appliquez toute votre pensée, n'est-ce pas? Quand vous êtes en Christ, votre pensée est dirigée vers les choses d'en haut. Si votre pensée est dirigée vers les choses d'en haut, alors vous mettez du feu dans le bois de la passion pour Dieu. Vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Vous cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Parce que les choses d'en bas, eh bien, vous éloigneront définitivement de Dieu. Les choses d'en bas sont les choses de ce monde. Et vous savez, l'apôtre Paul en parle. Et ces choses-là vous voleront votre foi. Parce que le monde va à l'inverse de la parole de Dieu. Le monde a des choix, des plans, des projets qui sont opposés au monde au monde de la foi. Ils vont en opposition. Et lorsque vous vous mettez sous les lois du monde, vous perdez les lois de Dieu. Votre foi est on peut dire, secouée, éprouvée. Et vous souffrez parce que vous savez plus où vous en êtes. Parce que pourquoi? Le feu est en train de s'éteindre. Le feu est en train de s'éteindre. La passion pour Dieu, nous devons l'entretenir. C'est pourquoi Dieu a suscité l'Église locale. C'est pas une invention des hommes, c'est une invention de Jésus lui-même. Il a préparé l'Église locale pour que l'Église soit toujours avec du feu dans sa vie. Pour que les croyants aient toujours du feu et accomplissent leur course. Alléluia. Amen. Donc voyez, les choix que nous faisons dans notre vie déterminent notre passion. Si nous sommes passionnés pour le Seigneur, nous ferons des choix. Et vous savez, faire des choix est très puissant. Un chrétien ne peut pas être indécis. Nous ne pouvons pas être indécis. Nous sommes des chrétiens, nous faisons des choix. Vous avez choisi d'être là ce matin. C'est un choix puissant. Mais vous voyez, vous ne faites pas ce que vous voudriez. Dans vos choix, vous choisissez ce qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez une passion pour le Seigneur. Si vous écoutiez votre chair ou votre corps, vous diriez, « Oh, cette nuit, j'ai pas dormi, je suis fatigué, je reste au lit, je fais la grasse matinée. » Mais ça, vous dites non. Pourquoi? Parce que je marche pour Dieu et j'ai passion pour Dieu. Alors je suis là où Dieu veut que je sois, que je le ressente ou pas, que je le veuille ou pas, je choisis de plaire et de faire ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Plus vous vous affectionnez aux choses d'en haut, c'est-à-dire à Dieu, à sa parole, à l'Église, à la prière, alléluia, à l'appel de Dieu dans votre vie, à la passion que Dieu a mis dans votre vie, eh bien cette passion va grandir. Elle va grandir. Et quand elle grandit, alors elle fait de puissants miracles. Parce que la passion pour Dieu produit des miracles. La passion pour Dieu produit des grandes choses. Alléluia, vous n'allez pas être timoré ni timide, vous allez faire des choses pour Dieu. Accomplir votre course avec joie. Alléluia. Rappelez-vous, l'apôtre Paul en prison, il a écrit une des plus belles épîtres de joie parce qu'il a écrit l'épître aux Philippiens. C'est une épître tellement joyeuse. Vous dites, mais il était en prison cet homme ? Oui, il était enchaîné pour la foi, mais il était joyeux parce que sa joie ne dépendait pas des circonstances. Sa joie dépendait de sa passion pour le Seigneur. Il était en communion avec le Seigneur. Et pour ça, frères et sœurs, il faut connaître le Seigneur. Qui est-il ? Est-il un Dieu d'amour ? Est-il un Dieu qui vous a aimé et accepté tel que vous êtes ? Oui, c'est un Dieu d'amour. Il est venu et il vous accepte tel que vous êtes. Et lui, il nous change. Il nous transforme. Il fait une œuvre en nous. Pourquoi ? Pour que la gloire lui en revienne. Vous savez, le Seigneur a... Oui, l'apôtre Paul, le Seigneur a beaucoup parlé de la chair. Quand on fait les choses pour satisfaire la chair, on se satisfait soi-même. Et à ce moment-là, Dieu n'en a pas la gloire. Mais quand on fait les choses par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous suscite de faire telle et telle chose, de dire telle et telle chose, d'agir de telle et telle façon, la gloire en revient à Jésus. La gloire en revient à Dieu. Rappelez-vous d'Abraham. Dieu lui a dit, tu auras un fils. Oh, mais j'ai pas d'enfant. J'ai même pas, ma femme est âgée, moi aussi. C'est pas possible. Oui, mais tu auras un fils. Et il dit, mais regarde, c'est mon serviteur qui sera mon héritier. Non, non. Regarde. Regarde le ciel. Regarde les étoiles dans le ciel. Telle sera ta postérité. Et Abraham a cru la parole de Dieu. Il a pas regardé que c'était impossible. Il a cru. Et la foi plaît à Dieu. Elle vous justifie. C'est la justice de Dieu se reçoit par la foi, pas par la loi, pas par le fait de faire les choses par soi-même, mais par la foi en Dieu. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est la puissance de la foi. Alléluia. C'est le fait de croire que parce que j'ai reçu Jésus-Christ, je crois dans la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je crois dans son sacrifice. Je crois dans sa résurrection. Je crois que je suis ressuscité avec lui. J'ai la foi. La foi est dans mon cœur, elle me justifie. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, je suis rendu juste. C'est la justice de Dieu. L'évangile, c'est la justice de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous cherchez la justice, alléluia, cette justice, elle est en Christ. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes la justice de Dieu. Vous avez la paix avec Dieu. Quand vous avez la paix avec Dieu, vous avez la paix avec vous-même. Si j'ai la paix avec Dieu, je ne suis plus en combat avec moi-même. J'ai de l'assurance en mon Dieu. Je vis en paix. Je vis en paix avec moi-même. Je vis en paix avec les autres. J'ai la paix de Dieu. Parce que je suis en paix avec mon Créateur, avec celui qui m'a créé, qui m'a voulu dans ce 21e siècle, avec celui qui m'a suscité, je suis en paix. Amen. Alléluia. Combien la paix de Dieu est précieuse. Eh bien, cela vient par la passion qu'on a pour Dieu. Et on l'entretient en cherchant ardemment les choses d'en haut. Alléluia. En nous attachant. Regardez l'autre mot qui est donné là. Alléluia. Il est dit « attachez-vous hein, fermement aux choses d'en haut ». Et dans Colossiens, il est dit « affectionnez-vous ». Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors sur la terre, Dieu merci, on a une bonne vie, on a un toit, on a de la nourriture, on a tout ce qu'il faut, la plupart d'entre nous, je crois même tout le monde. On a le nécessaire, donc on a ce qu'il faut. Mais voyez, notre affection n'est pas dans ces choses. Il faut bien savoir que nous sommes dans cette société matérialiste où les gens se battent pour être heureux par les choses, au travers des choses. Et ils vont être heureux s'ils ont un projet, etc., qui va leur apporter ci et cela. Mais voyez, c'est bien, mais c'est pas tout. Alléluia. L'affection que nous portons, nous la portons à Dieu. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Le mot affectionner porte le mot d'affection, ça veut dire d'aimer. Est-ce que vous aimez les choses d'en haut ? Est-ce que vous aimez Dieu ? Est-ce que vous aimez la prière ? Est-ce que vous aimez la louange ? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu ? Est-ce que vous aimez l'Église ? Est-ce que vous aimez vos frères et sœurs ? Oui, je le crois. Alors vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Qu'est-ce qui se passe ? Votre passion va grandir. Votre passion, vous mettez du feu et du bois dans le feu. Alléluia. Et la passion va produire de bons fruits. Les gens passionnés changent leur monde. Les gens changent leur monde. Frères et sœurs, je le disais, je parlais d'Abraham Lincoln. Il y a un film qui va sortir que je vais aller voir, bien sûr. Mais il y a longtemps que je le connais, cet homme de Dieu. Hein, ce président que Dieu a suscité, un homme simple. Mais je vais vous dire, je lisais dernièrement une de ses biographies, Abraham Lincoln, un jour se tenait sur le port de New York avec un ami. Et il était dans les problèmes, il avait financièrement des gros problèmes. Et il est arrivé un énorme bateau qui a charrié des esclaves et des esclaves et des centaines d'esclaves qui sont descendus de ce bateau dans des conditions terribles, enchaînés, à New York même. Et d'un seul coup, toute l'attention d'Abraham Lincoln s'est portée sur une famille. Il y avait la mère, le père et un petit garçon. Et il les a vus, vous savez, c'est comme s'il y avait un éclairage sur cette famille. Eh bien, ils sont descendus, et ensuite, des hommes ont déchiré cette famille, ont pris l'homme est parti dans un sens, la femme est partie dans un autre, et le petit garçon est parti ailleurs. Et il a été déchiré. Il a tellement souffert de cette situation, il est dit que dans ses mains, dans ses poches, on s'est mis à déchirer, il en a saigné de douleur. Et il a dit, moi, tant que je vivrai, je vais me battre pour abolir cette loi inique de l'esclavage. Il était loin de le faire, mais sa passion a commencé. Il a souffert de voir comment on traitait des êtres humains avec bonne conscience. Et Dieu s'est servi de cette douleur et de cette passion. Il n'en a pas dormi des nuits. Il a revu cette famille et les autres en brisement de cœur. Mais vous voyez, cet homme est devenu président des États-Unis. Je crois qu'il était le 16e président des États-Unis. Et il s'est battu, et battu, et battu pour imposer l'abolition de l'esclavage là-bas. Amen. Et ça lui a coûté. Je ne sais pas ce que va être le film de Spielberg, mais je vais le voir. Et parce que je sais que cet homme, eh bien, c'est sa foi en Christ qui l'a suscité et qui l'a porté jusqu'au bout. Et il a été tué, comme tous les gens de bien, hein, il a été tué à coups de fusil, il a été martyr, comme Martin Luther King et d'autres, mais il a accompli sa route, il a accompli sa course, frères et sœurs. Il savait qu'il serait tué, il l'a déclaré dans des discours, mais il a accompli sa course. Sa course, c'était d'aller jusqu'au bout et d'abolir cette loi inique. Amen. Alors vous savez qu'elle a été paraphrée par Martin Luther King, mais les gens de passion, de bonnes passions accomplissent de grandes choses pour l'humanité. Les gens de passion accomplissent de grandes choses. C'est pourquoi l'Évangile, il faut qu'il brûle dans nos cœurs parce qu'elle produit en nous des bons désirs, des capacités de faire des choses que nous ne ferions pas dans le naturel parce que nous avons la passion de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Regardons encore un instant. Donc vous comprenez comment entretenir votre passion? Est-ce que vous avez compris? Attachez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez les choses d'en haut. Ça veut dire utiliser votre pensée, votre énergie pour être fidèle dans les choses d'en haut. Alléluia. Et ne pas laisser trop de place aux choses de ce monde parce que ce monde va à l'inverse de la parole de Dieu. Il va à l'inverse des lois de Dieu. Et il va à sa perdition. Mais vous, c'est pas la même chose. Les chrétiens marchent avec la lumière de Dieu dans leur vie. Alléluia. Donc, nous devons nous entraîner à cela. Vous voyez, nous devons nous entraîner. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient, voilà la passion, je reçois la passion. Non, c'est quelque chose que nous entretenons. Amen. Nous entretenons cette passion en étant fidèles, semaine après semaine, jour après jour. Et notre passion grandit. Regardez dans Romains 12, au verset 1. L'apôtre Paul continue sa pensée. Que vous le sentiez ou pas, vous devez faire quelque chose. Alléluia, afin de grandir et d'être passionné pour Dieu. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps. Amen. C'est la même pensée, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera, de votre part, un culte normal. Vous voyez, venir à l'église, c'est normal. Ne pas venir à l'église, c'est pas normal. Offrir son corps, être là quand il y a des moments importants, c'est normal. Ça n'a rien d'extraordinaire. Amen. Alléluia. Donc soyons des gens de passion. Alléluia. Et donnons-nous à Dieu. Alléluia. Apprenons à nous donner en Dieu. Pas de prière, pas de puissance. Pas de louange, pas de puissance. Alléluia. Amen. Bien. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de David. Hein? On a le temps. Regardez avec moi 1 Samuel 17. Parce que David était un homme de passion. Sa passion brûlait depuis le jour où il a reçu une onction particulière. Je voudrais vous parler de cela maintenant. Pour que vous compreniez bien que la passion est reliée au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit en nous, eh bien, il doit grandir et prendre de la place dans nos vies parce que c'est lui qui communique cette passion pour Dieu. Amen. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de David. Vous vous souvenez que le Seigneur a dit à Samuel, regardez 1 Samuel 16, « J'ai rejeté Saül », mais Saül a régné quand même 40 ans. Hein. C'est beaucoup, mais c'est toujours le chiffre 4, c'est le chiffre de l'épreuve. Hein. Jésus a jeûné 40 jours, eh bien, Saül a régné 40 ans, les Hébreux sont partis 40 ans dans le désert, vous savez, c'est souvent l'épreuve. Oui, le déluge. Et donc, je ne sais pas combien de jours, mais si tu me le dis, je te crois. 40 jours et 40 nuits, merci. Exact. Alors, le Seigneur dit, arrête Samuel de pleurer, parce que j'ai trouvé un autre roi, selon mon cœur. Alors, va dans la famille de Jessé, là, et je vais te montrer qui j'ai choisi. Alors, voilà, Samuel part avec la fiole d'huile sainte, consacrée, et il va dans une famille où il y a des beaux garçons. Hein, il y a des fils, il y a une belle famille. Et il arrive et il dit, écoute, Dieu m'envoie parce que Dieu veut choisir dans ta famille le roi d'Israël. Alors, regarde mes fils, dit le père, voilà les nés, regarde les uns. Alors, il dit, ah, c'est sûrement lui. Samuel dit, ah, quel beau garçon, grand et fort, c'est sûrement lui. Et Dieu dit, non, je l'ai rejeté. Et il voit le deuxième, le troisième, le quatrième. Tous les fils, et Dieu dit, non, je les ai rejetés. Alors, Seigneur, qui est-ce ? Et il s'adresse au père et il dit, est-ce que tu as un autre fils ? Ah ben oui, j'ai un petit gars là, il est en train de garder les brebis, il est tout jeune, hein, il a 13-14 ans, va le chercher. Et lorsque David est arrivé devant Samuel, le petit garçon, n'oubliez pas, c'est un petit garçon, c'est un jeune garçon, eh bien Dieu lui a dit, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait Samuel ? Il a libéré la fiole d'huile sainte sur sa vie et il lui a dit, un jour tu seras roi d'Israël. Eh bien, je vais vous dire, à partir de ce moment-là, ce petit garçon qui avait commencé à expérimenter beaucoup de choses avec Dieu a commencé à se prendre pour un roi. Il a commencé à réaliser qu'il avait un royaume, que Israël, c'était son royaume. Il a commencé à changer dans sa pensée à cause de l'onction. Et il a commencé à avoir une foi dynamique. C'est pour ça que quelques jours après, son père lui dit, va donc voir tes frères, ils sont sur le terrain de bataille, là, ils sont sur le champ de bataille. Va donc les voir, apporte-leur un peu de pain et beaucoup de, et du fromage, et va les voir, va les encourager, donne-moi des nouvelles. David est rempli de l'Esprit de Dieu, il est oint. Il sait qu'il a l'onction royale sur sa vie. Amen. Et à cause de cela, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se comporter comme un roi. Il va se comporter comme quelqu'un à qui on n'a pas le droit de toucher son territoire. Vous savez ce qu'il a fait ? Il arrive et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le géant Goliath qui menace l'armée d'Israël, qui tremble de peur et qui dit « Celui qui va venir, eh bien, je vais m'opposer à lui et je vais vous vaincre tous parce que nous allons vous détruire, vous êtes des riens, vous êtes des esclaves. » Et David arrive, il a l'onction royale sur lui, la passion pour Dieu. Comment quelqu'un ose parler comme ça de mon territoire, ça veut dire. Qui ose menacer l'armée du Dieu vivant ? C'est un jeune homme, oint par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, quand vous êtes oint du Saint-Esprit, vous êtes en train de régner pour Christ. Vous êtes en train de régner, vous devez régner. Vous avez une onction royale sur votre vie, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, là en vous, vous appelle à régner. Ça veut dire à libérer vraiment la bonne nouvelle autour de vous et à agir comme des gens qui ont autorité. Autorité contre les démons, autorité dans les circonstances. Une autorité spirituelle, une autorité douce et aimante, mais ferme. Vous me suivez là, frères et sœurs ? Il a dit, comment est-ce qu'on ose attaquer comme ça l'armée du Dieu vivant ? Waouh, Dieu est vivant. Pour David, Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas une image. Dieu n'est pas un symbole. Dieu est vivant. Est-ce que Dieu est vivant dans votre vie ? Oui, je le crois. Alléluia. Et ses frères arrivent et on voit pourquoi ils n'ont pas été choisis. Et ils disent, oh, oh, dis donc toi, comment tu oses parler comme ça ? Pour qui tu es ? Tu es un petit orgueilleux. Tu es... Retourne donc vers tes brebis, tu viens nous gêner là. Pardon, comment tu oses parler comme ça? Ils sont choqués. Pourquoi? Ils n'ont aucune foi. Ils sont remplis de peur. Mais David est oint par le Saint-Esprit. Il est oint par Dieu. C'est un jeune garçon qui a reçu une parole. Dieu lui a dit, tu seras roi. Et il commence à le croire. Il a cru la parole du prophète. C'est pourquoi il a agi comme il a agi. Et c'est pourquoi, avec foi et passion, il a détruit Goliath. Et il est devenu vainqueur parce qu'il était dans son territoire. Il avait conscience qu'il était sur sa terre. Amen. Et nous, frères et sœurs, comment nous comportons-nous dans cette ville? Alléluia. Est-ce que nous voyons les gens comme s'ils sont trop forts, trop puissants pour qu'on puisse leur parler de l'évangile? Vous savez, le Seigneur a dit, je confondrai les forts avec les faibles. Et l'apôtre Paul a dit, dans l'Église, il n'y a pas beaucoup de puissants selon le monde. Les puissants selon le monde ne veulent pas de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile nous parle de nous repentir. L'évangile nous parle de changer de vie, de changer de direction, de nous mettre en ordre avec Dieu, d'avoir une vie droite, une vie sainte, de changer notre langage, de changer nos attitudes. Et les grands de ce monde, ils veulent le pouvoir. Ils ont la passion pour ce qui n'est pas bon, la passion pour le pouvoir, la passion pour l'argent, la passion pour dominer. Et ça, c'est les passions destructrices. Mais Dieu nous dit, non, non, vous, c'est les choses de ce monde. Cette passion, ne l'ayez pas. Ayez la passion pour Christ. Alléluia. Et vous aurez toutes choses en abondance. Parce que Dieu a dit, si tu fais passer Dieu en premier, je te donnerai toutes choses en abondance. Alors, voyez qu'il y a passion et passion. Hein? Vous voyez que David était passionné par Dieu. Il a fait des erreurs à cause de cette passion parce qu'il n'a pas su contrôler sa passion. Et il a fait des erreurs. Mais il est resté un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que la passion pour Dieu a continué de brûler dans son cœur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut regarder encore quelque chose de formidable dans la vie de David? Regardez dans 2 Samuel 23. David a gardé la passion pour le Seigneur toute sa vie. Et vous savez qu'à un moment donné, eh bien, il était tellement puissant, tellement glorieux sur le champ de bataille que Saül a commencé à être jaloux de lui. Et Saül a su que ce petit gars-là, eh bien, il allait lui prendre son royaume. Alors il a commencé à le persécuter, à le persécuter. David a dû se réfugier dans un lieu qu'il connaissait bien. Rappelez-vous, il était berger. Il est allé se réfugier dans une caverne. Et là, des gens sont arrivés autour de lui. Est-ce que vous vous rappelez de ce beau passage? Des gens qui étaient en dette. Des gens qui étaient mécontents, des gens qui avaient que des problèmes dans leur vie. Ils ont dit, ah, ce gars-là, il a un esprit qui nous plaît, il ne va pas nous juger, il ne va pas nous condamner, au contraire, il va nous accueillir, on va aller vers ce gars-là. On sait où il est, on va aller vers lui. Vous vous rendez compte? Ce que David portait de passion et de rejet, à stimuler d'autres personnes qui eux-mêmes étaient rejetées, qui eux-mêmes ne réussissaient pas à venir autour de lui. Et ces gens autour de lui ont tellement changé qu'ils sont devenus les grands et les vaillants guerriers de David. Vous voyez que David lui-même en fait une liste, la parole de Dieu en fait une liste, parce que ces gens ont changé. La valeur de la passion pour Dieu fait que les gens vont changer autour de vous pour être meilleurs. Des gens qui ont peut-être des dettes, qui n'arrivent pas à assumer leur vie, qui n'arrivent pas à travailler, qui ont que des problèmes. S'ils viennent auprès de vous qui avez la passion pour Christ, vous allez les aider, vous allez leur communiquer, vous allez leur parler, ils vont changer. Alléluia. Parce que c'est ce que David a fait avec ces gars-là. Et lorsque vous regardez la parole de Dieu, excusez-moi, 2 Samuel 23, et vous avez à partir du verset 8... Vous l'avez 2 Samuel 23, vous avez toute une liste, oui merci, des vaillants hommes de David, tous ces vaillants soldats. Et vous verrez tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des exploits extraordinaires. Mais lorsque vous suivez la liste et que vous arrivez en bas de la liste, et vous avez le verset 39, eh bien, au verset 39... Vous avez qui? Vous avez Uri, le Héthien. Ça veut dire c'est le mari de Bathsheba, la mère de Salomon, cet homme qui l'a fait tuer en l'exposant sur le champ de bataille parce qu'il voulait sa femme. Hein, il a péché dans ce domaine. Et mais en même temps, vous voyez, il a compris que c'était un homme vaillant, qui aimait David. Et il l'a placé dans sa liste. Ça nous montre à quel point cet homme a changé et à quel point les gens autour de lui ont changé. Vous voyez? Parce qu'il a su reconnaître. Il avait un cœur qui, sans être totalement parfait, un cœur qui était, on peut dire, malléable. Il pouvait être transformé, il pouvait changer, il pouvait se repentir, il pouvait s'améliorer, David. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il avait un cœur selon Dieu. Et frères et sœurs, je vous le dis, dans votre vie, dans ma vie, nous avons besoin de nous améliorer. Amen. Nous avons besoin de garder la passion pour le Seigneur. Nous avons besoin d'entretenir cette passion et de ne pas vaciller parce que nous avons toutes sortes de choses qui nous pressent à droite et à gauche. Nous avons des influences à droite et à gauche. Nous devons rester mobilisés quant à notre passion parce que, alléluia, de cette passion découle beaucoup de bénédictions. Non seulement pour nous, mais aussi pour d'autres. Notre passion pour Christ amène la bénédiction sur d'autres vies. Dieu est venu un jour dans ma vie, je n'étais pas croyante. C'est parce que quelqu'un a compris la beauté et la puissance de l'évangile que quelqu'un est venu m'annoncer l'évangile. J'ai reçu l'évangile. Combien de vies ont été bénies au travers de moi? Combien de vies ont été bénies au travers de vous? Parce que vous avez cru. Combien de gens vont au paradis parce que vous avez cru? Mais vous voyez, si vous aviez renoncé, si vous aviez abandonné, si vous aviez été infidèle, combien de gens serait parti dans les ténèbres. Eh oui. Donc vous voyez combien notre passion pour le Seigneur doit être entretenue. Entretenue, entretenue. Amen.